Buongiorno.
Vous aimez le cinéma?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est?
Actualité cinéma et tout le reste.
Ça te satisfait?
Intensément.
Sur Divergence FM.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
Prenez le chemin habituel. La radio. La radio.
Ici, avec nous.
Le silence va plus vite à reculons.
Eh bien, je vous écoute.
Bonjour et bienvenue à l'émission Cinérama du mercredi 20 avril. Bonjour Martin.
Bonjour Vincent, bonjour à tous.
Mais quelle forme!
Eh ben oui, écoute.
Alors, tu nous as préparé quoi pour aujourd'hui?
Alors, moi je vous parlerai un petit peu de Mr. Nice, un film qui est sorti mercredi dernier. Donc voilà, nous ferons une petite plongée en apnée dans le monde du trafic de drogue et de la défense, et pour compléter...
On sent plus jubilé quand même.
Bah écoute, pourquoi pas. Donc pour compléter cette petite chronique, je vous ai préparé un blind test sur les films qui parlent de la drogue. Et un peu plus tard dans l'émission, ou non d'ailleurs, je vais commencer par ça, je vous parlerai de Reservoir Dogs, un film de Quentin Tarantino qui passe au cinéma Nestor Burma mardi prochain. Voilà un film qu'il ne faut pas rater, je vous dirai pourquoi.
Et moi je vous parlerai de Rabbit Hole de John Cameron Mitchell qui est sorti la semaine dernière et puis aujourd'hui sort le premier film de Daniel Auteuil, La fille du puisatier, un film extrêmement classique, donc eh bien, on se réservera ça pour la toute fin de l'émission. Mais on va débuter avec toi Adrien, bonjour Adrien.
Bonjour Vincent, bonjour Martin.
Bonjour. Et on va parler de L'absurde séance. T'es un peu étonné Adrien, mais quand il s'agit de parler de Gaspard Noé, eh bien, j'aime bien mettre le début, l'irréversible en fait. Hein. Voilà, alors il est question de Seul contre tous, demain, pour l'absurde séance que tu pilotes, depuis qu'elle est arrivée à Montpellier au cinéma Utopia. Donc c'est Seul contre tous, le deuxième film de Gaspard Noé, le premier en tout cas long métrage de Gaspard Noé. Donc bah, pourquoi tu as choisi ce film? Dans l'absurde séance.
Pour beaucoup de raisons, déjà parce que c'est un chef-d'œuvre, hein, ça me semble être une assez bonne raison pour pouvoir le présenter dans une séance comme ça. Parce qu'il est... alors en fait, à la base, on a passé Massacre à tronçonneuse, on a passé Star Crash, on a passé Orgasmo, on s'est dit, ça serait pas mal de passer un film francophone pour changer un petit peu. Et donc, on s'est mis d'accord, on avait toute une liste de films sur lesquels on s'entendait ou on s'entendait pas avec le programmateur d'Utopia. Et puis, quand on est tous les deux tombés sur... on s'est mis d'accord sur Seul contre tous, puisque voilà, c'est un gros film coup de poing qui a tout à fait sa place, il me semble, à l'absurde séance, déjà du fait que... il ne soit pas forcément trop diffusé en salle, en tout cas actuellement. Tout le monde l'a vu en DVD, mais qui l'a vu en salle? Une fois de plus, c'est comme Massacre à tronçonneuse. Il y a beaucoup de gens qui l'ont vu en salle, mais dans le public de l'absurde séance, c'est-à-dire un public étudiant, clairement, très ouvert, hein, mais on constate que c'est quand même plutôt des étudiants qui viennent. Je pense que très 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 peu, voire peut-être aucun, n'a vu...
Ça, c'est un problème de génération. Il est sorti en 97 de toute façon. Voilà. Je pense que Martin était en 6e ou je sais pas.
Et bon, ça va.
Et donc, il y a 50 000 personnes seulement hein, qui l'ont vu au cinéma, me semble-t-il. J'ai entendu Philippe Naon, l'acteur, en parler. Après, c'est sûr qu'il y a eu le DVD, Internet aussi, qui ont contribué à la vision de ce film. Alors, tout l'intérêt, c'est effectivement de le voir en projection cinéma. Alors, pour que la fête soit plus belle, il y a quand même aussi l'avenue de Philippe Naon, donc oui. L'acteur emblématique de Seul contre tous. Alors, est-ce que ça a été facile de faire venir Philippe Naon?
Très facile. Il se trouve que... je pense que tu vas en parler un petit peu après, mais c'est vrai que quand on le voit dans les films, on pourrait se dire wow, « Waouh, ce mec doit pas être facile dans la vie, quoi ». C'est vrai qu'il a souvent des rôles de dégueulasse, pas que, mais là où il est vraiment notable, dans Tension, bon, c'est quand même un gros psychopathe. Bon, et alors en fait, donc, tout simplement, je lui ai passé un coup de fil, et il m'a dit « Ouais, voilà. » Et c'est tout. Et donc du coup, il vient, il est tout à fait sympathique, et il me tarde de le voir demain en vrai, et de discuter avec lui, et de le faire rencontrer au public.
Alors, chers auditeurs, si vous ne connaissez ni Seul contre tous et si vous n'avez pas trop d'idées sur ce qu'est Philippe Nahon, la première fois que l'on voit Philippe Nahon à l'écran, c'est dans Le Doulos de Jean-Pierre Melville, mais c'est un rôle mineur. Il fera beaucoup de nombreux films comme ça parce qu'il est surtout choisi pour son physique, comme tu l'as dit, Adrien. C'est sa carrure massive qui va déterminer une bonne partie de sa carrière. Prolétaire, sale type à la mine sinistre, voire carrément méchant, sont des rôles qui lui vont à merveille. Personne n'imaginerait mettre un poster de Philippe Nahon dans sa chambre. Et c'est sans doute pour cela que Gaspard Noé l'embauche pour le rôle d'un boucher raciste et misogyne dans deux de ses films. Alors, le moyen-métrage Carne, en 1991, et sa suite... Enfin oui, c'est une sorte de suite, Seul contre tous, en 97, qui est un véritable succès critique. Avec ces deux films, c'est sûr, les spectateurs vont se souvenir de son visage et de cette voix éraillée si particulière.
Ça fait bizarre de se retrouver dans cette pièce, devant ce lit où j'ai fait ma fille. Qu'est-ce qu'elle plaisait bien, sa mère. Si au moment où j'allais lui gicler dedans, j'avais su qu'elle allait me foutre un marmot sur le dos, je me serais retenu. Mais c'est comme ça. J'ai lâché la purée. Mais aujourd'hui, ma fille existe. Et même si sa mère est morte, il reste au moins ce souvenir des après-midi que j'ai passé avec elle sur ce lit. Une vraie femme, c'est beau. Mais le problème, c'est que la plupart d'entre elles sont aigries d'être nées sans bite. Quand je pense que cette salope, elle m'a plaqué avec la môme pour se refaire une vie avec un Portugais. Les femmes, c'est parfois de pauvres animaux. Comme elles n'ont pas de bite, la seule manière qu'elles ont de se sentir fortes face à un homme, c'est de le trahir en s'accrochant à une autre bite. Surtout si celle-ci est plus friquée. Au moins, ce qui me fait plaisir, c'est qu'après lui avoir bien bourré le mou, son prince charmant l'a balancé comme un fromage pourri. Elle s'était comportée comme une ordure, mais au moins elle a eu l'intelligence de s'en apercevoir. Le passé te rattrape toujours. Tu finis toujours par payer tes actes. Et si elle a fini par se jeter sous un métro, c'est pas de ma faute. C'est juste qu'elle ne méritait pas mieux. Putain, se trouver sans fric, c'est dur. Mais quand t'as personne sur qui compter, c'est vraiment la poisse. Moins t'en as, plus les gens t'évitent. T'as beau leur dire que t'es père de famille, qu'un jour t'as été propriétaire d'un bail et que t'as toujours été réglo. Tout ça, l'enculé de l'hôtel, tes soi-disant amis ou le patron du bar du coin, ils n'en ont rien à foutre. Si tu montres que tu n'as pas le rang, ils te foutent à la porte. Ils en profitent pour le faire de la manière la plus humiliante. Plutôt qu'aider un type à sortir d'une mauvaise passe, il préfère lécher gratis le trou du cul d'un gros friqué en espérant qu'il leur lâchera un petit pourboire. C'est pour ça qu'ils ont tous la langue pleine de merde. Mais moi, je préfère être pauvre et honnête. Qu'on me file un petit boulot, que j'ai de quoi me payer un bon steak, et surtout qu'on me foute la paix. C'est pas le grand bonheur, mais moi, ça me va. Mais je suis vraiment à la masse pour venir le voir sans jour de fermeture. À qui je vais pouvoir emprunter du fric ?
Voilà, donc c'est ce monsieur hein, qui sera demain à l'Utopia donc, à pour présenter ce film Seul contre tous. Alors au-delà de sa violence, interdit au moins de 16 ans tout de même, eh bien, il va finalement promouvoir deux talents. Alors d'abord Gaspard Noé, bien sûr, qui fait des films sans concession, et puis son interprète qui se raccroche au wagon de la nouvelle génération de réalisateurs dans les années 90, avec Mathieu Kassovitz, il a un rôle dans La Haine, Les Rivières Pourpres, Jacques Audiard pour un héros très discret, et Christophe Gans pour Le Pacte des Loups. Alors dans les années 2000, il rejouera avec Gaspard Noé dans Irréversible, où on le voit en tôle, la bile pas tout à fait calmée. Il n'y a que dans Hunter the Void, le dernier Gaspard, eh bien, qu'il n'apparaîtra pas. Et puis suivront Haute Tension d'Alexandre Aja, où il interprète un serial killer, ça lui pendait au nez, et on le retrouve aussi dans Calvaire, qui est la descente aux enfers d'un type qui a un problème de batterie confronté à la violence des campagnards des Ardennes. Voilà, pour résumer, c'est un sous-titre. Ensuite, c'est plutôt la diversité qui caractérisera son parcours, toujours apprécié par des réalisateurs de films d'horreur, même si Philippe Nahon est capable de jouer dans des registres beaucoup plus légers, mais jamais en premier rôle, me semble-t-il, comme ce fut le cas avec Gaspard Noé. Et donc, Adrien.
Tout à fait.
Alors oui, là, demain, ce sera Seul contre tous. Et puis, il y a une petite carte blanche hein, offerte à Philippe Nahon.
Oui, tout à fait. Alors, on lui a... Donc, quand je l'ai eu au téléphone, je lui ai dit, voilà, qu'est-ce que tu aimerais nous montrer, nous présenter comme film dans lequel tu as joué ? Et il nous a tout de suite, il nous a proposé en fait un film qui s'appelle Vivre jusqu'au bout, qui est un court-métrage en fait réalisé par Vincent Plaidy en 2010, qui raconte en fait l'histoire de deux vieillards. Un qui sort d'une peine de 30 ans de prison et un qui a eu une vie rangée en fait et qui se retrouve dans une maison de retraite et ils vont décider ensemble de recommencer leur vie et de vivre jusqu'au bout. Voilà. Donc c'est le film qu'on va passer en première partie de programme, donc il dure 24 minutes, c'est un film français. Et alors moi je ne l'ai pas encore vu, je vais le voir demain matin. Je fais à 100% confiance à Philippe Nahon, c'est lui qui l'a choisi, il en est apparemment fier, donc ça devrait être très sympa.
Alors ce qui est très intéressant avec Philippe Nahon de toute façon, c'est que c'est quelqu'un effectivement qui a suivi la nouvelle génération, enfin qui s'est raccroché vraiment à la nouvelle génération de réalisateurs, et notamment il a un soutien indéfectible à Gaspard Noé, et on peut dire d'ailleurs, enfin il y a la réalisation de Gaspard Noé qui est tout à fait étonnante, on l'entend avec ces petits coups là qui arrivent, ces petits coups sonores, il y a des décadrages, il y a le discours vraiment omniprésent de cet homme qui respire la haine, mais qui en même temps un type qui cherche à se débrouiller, enfin avec le quotidien, avec son état de pauvreté, enfin voilà. Mais quand même, voilà, il y a quand même une puissance chez cet acteur, quoi, chez Nahon.
Hein. Oui, tout à fait. Dans son élocution, il est assez magistral, surtout dans Seul contre tous, et donc dans Carne qu'on ne passera pas, puisque dans le cadre de notre carte blanche, il n'a pas forcément choisi Carne et qu'il n'est plus disponible en copie 35. On aurait peut-être pu le passer en vidéo, mais on s'est dit que tant qu'à faire, autant montrer un film qui était mal diffusé, hein, qui n'a pas été trop diffusé, mis à part dans quelques festivals. Oui, Philippe Nahon, il a une voix quand même vachement...
Une voix très éraillée, et puis voilà. C'est surtout, je pense, son physique, hein, je ne sais pas, Martin...
Oui, moi je l'ai vu... quasiment que dans Irréversible, où en une scène, il arrive à camper un personnage, on sent le passif de ce personnage, justement les deux films Carne et Seul contre tous, là, il est en slip sur un grabat de prison, et il a pareil un discours, une sorte de petit monologue pendant un certain temps, et c'est vrai qu'il m'avait bien bluffé, bon tout le reste du casting dans Irréversible est assez incroyable, mais c'est vrai que Nahon en quelques minutes, parce qu'il a vraiment quelques minutes à l'écran, bien impressionnant. Ouais.
D'ailleurs, il reprend son personnage qu'il avait déjà dans le diptyque Carne Seul contre tous, donc qui est Seul contre tous, qui est clairement une suite directe de Carne. Il y a un petit résumé de Carne en fait au début qui est encore plus détaillé dans l'historique des personnages, on va dire, que Carne, parce qu'il rajoute des éléments qui n'étaient pas présents en Carne, notamment sur le passé du boucher.
J'aurai toujours un bout de pain à te donner. La vie, c'est à combattre tous les jours. Faut se battre, faut s'accrocher. Pense-y. Moi, c'est pareil, hein, je lutte. Et j'ai toujours lutté. Et j'ai déjà remonté ça. Je sais, t'es comme moi, t'es né sous une mauvaise étoile. Tu sais qu'il y a des riches, il y a des pauvres, c'est toujours les pauvres qui payent. Hein. Et nous, on fait partie de ces pauvres. On va venir toujours me voir, ça fera plaisir. Et j'espère que ce sera dans de meilleures conditions.
Oui. Juste de quoi m'acheter un sandwich. Et encore. Soit jambon, soit fromage, mais pas les deux, ils sont beurre. Fait chaud ici. Et demain, comment je vais faire? Je vais quand même pas faire la manche. Pas à mon âge. Et encore moins dans mon quartier. Pas que je l'aime, mon pays. La France. Pauvre France. Toute la misère du monde s'est abattue. Plus d'usines, plus de travail. Et rien que des ruines et des chômeurs. Putain, j'ai la dalle. Pas de café à l'horizon. Prenez marcher un kilomètre. Bah tu restes là, c'est pas plus mal. Ça garde le fric pour un cristal demain. Je vais me coucher. Qui dort, dîne. Mais si ça se trouve, demain, j'aurai même pas faim.
Voilà donc un nouvel extrait de Seul contre tous. À noter que c'est interdit effectivement au moins de 16 ans et qu'il y a un avertissement hein, vers la fin du film où Gaspard Noé met clairement une annonce au spectateur lui indiquant qu'il a 30 secondes pour quitter la salle si vraiment, voilà, il est très sensible.
Oui, d'ailleurs, c'est finalement, en fait, la scène en elle-même n'est pas forcément... C'est vrai c'est quand même une scène très, très intense au niveau de la narration, mais c'est plus le film dans son ensemble, plus qu'une scène, pré, plus qu'une scène, une scène précise, il me semble, qui est vraiment un coup de poing.
Mm-hmm. Oui.
Non ouais. Ouais. Bon, c'est vrai que la scène est quand même, hard.
Bon, mais... il vaut mieux voilà,
on n'en dit pas plus.
Garder le silence là-dessus. Eh bien, merci en tout cas, Adrien.
Merci à toi, merci à vous.
Et puis, bon courage donc avec Philippe Naon, en espérant qu'il ne te fasse pas trop les gros yeux.
Non,
et que tout se passe bien, que tu l'accueilles bien. Ce sera demain donc à l'Utopia à 20h, donc avec un court-métrage choisi par Philippe Naon et puis ensuite Seul contre tous.
Et une rencontre.
Et une rencontre évidemment.
Alors on va continuer dans l'événementiel parce que mardi prochain à partir de 18h, la salle Nestor Burma à Celle-Neuve vous propose un double programme. Alors dans la grande tradition des cinémas de quartier de la Belle Époque ou des grindhouse américains. Sauf que cette fois-ci, pas de zombies à l'horizon, pas de jeune naïade déshabillée et poursuivie par un tueur en série, pas de dominatrice en uniforme nazi, ni de Philippe Naon légèrement déséquilibré. Non, le Nestor Burma est une salle respectable, qui plus est municipale, donc le ton devrait rester sérieux. Alors au programme, le nouveau film de Monty Hellman, Road to Nowhere, que nous n'avons pas encore vu, suivi de Reservoir Dogs, premier film d'un jeune réalisateur totalement inconnu, Quentin Tarantino.
That was the Partridge Family's Doesn't Somebody Want to Be Wanted, followed by Edison Lighthouse's Love Grows Where My Rosemary Goes, as Kay Billy's super sounds of the 70s weekend just keeps on trucking.
Alors aujourd'hui, Quentin Tarantino, c'est une star planétaire grâce au succès de Pulp Fiction, de Jackie Brown, de Kill Bill et de la plupart des projets auxquels il a été mêlé. Il a remporté une Palme d'Or, présidé le Festival de Cannes et la Mostra de Venise, reçu un César d'honneur, etc. Mais avant qu'il ne devienne une icône pour toute une génération et un réalisateur adoubé par ses pairs, Tarantino a commencé par batailler pendant des années avant de pouvoir réaliser son premier film professionnel. Alors, Reservoir Dogs, c'est le quatrième scénario rédigé par Tarantino. À l'époque, il vient d'essuyer deux échecs successifs avec ses scripts de True Romance et de Tuerney, qui finiront quelques années plus tard entre les mains de Tony Scott et d'Oliver Stone. Sa première tentative de réalisation n'a pas été particulièrement concluante et ce film, intitulé My Best Friend's Birthday, reste inachevé. Alors Tarantino écrit l'histoire des Dogs en 3 semaines et demie et commence à chercher un producteur. Par chance, le scénario finit par atterrir sous les yeux d'Harvey Keitel, qui s'emballe immédiatement et propose d'aider le jeune Quentin à produire son film. Une fois Keitel attaché au projet, celui-ci s'organise et le casting s'étoffe. Monty Hellman s'associe à la production et Steve Buscemi, Tim Ross, Michael Madsen et Chris Penn rejoignent l'équipe.
What the fuck am I doing here, man? You know what I felt funny about this job right off? As soon as I felt that I should have said no thank you and walked, but I didn't fucking listen. It was like that every time I got caught buying weed. Same thing, man. I didn't trust the guy. I felt funny about him, but I wanted to believe him, you know? Because if he's not lying to me, if he really is tie stick, then it's great, right? But no, it's never tie stick. And I always said if I felt that way about a job, I fucking walk. And I didn't. I didn't get the fucking money.
Our son is done. I need you cool. Are you cool? I am cool.
Alors on parlait de l'élocution de Philippe Naon juste avant, l'élocution de Buscemi est assez mythique. Reservoir Dogs, c'est un film de casse, une bande de gangsters se réunit pour braquer une bijouterie. Malheureusement, le casse ne se déroule pas comme prévu, l'un d'eux pète les plombs et les flics débarquent comme par enchantement. Ils ont été trahis. Alors l'une des particularités du film, c'est qu'il ne montre pas le braquage en lui-même. La seule chose que l'on voit de l'opération, c'est la panique et la dispersion des Dogs après la débâcle. Une grande partie de l'action se déroule dans l'entrepôt qui leur sert de planque, une morgue avec corbillard et cercueil de circonstance. Et le refuge des Dogs devient scène de théâtre où tout repose alors sur les épaules du casting. Une distribution 4 étoiles que Tarantino a réunie et a su diriger de main de maître, donnant à Steve Buscemi et Michael Madsen deux rôles parmi les plus marquants de leur carrière.
Nobody tells me shit. You can torture me all you want.
Torture you, that's a good idea. I like that one. Yeah.
Alors de temps en temps, Tarantino interrompt le déroulement chronologique des événements et casse l'unité de lieu pour développer des séquences indépendantes, des flashbacks ou chapitres, comme le réalisateur préfère les appeler. Nous découvrons petit à petit les coulisses de la tragédie qui se joue dans l'entrepôt. Et comme on le verra dans plusieurs de ses films suivants, Tarantino aime bien présenter les conséquences avant les causes. Par exemple, dès la deuxième scène, l'un des personnages est blessé et pisse le sang sur la banquette arrière d'une voiture. Mais c'est seulement une heure de film plus tard que nous découvrons les circonstances exactes de sa blessure. Du recrutement des gangsters au préparatif du braquage, cette construction sous forme de chapitre nous invite à modifier petit à petit notre perception des événements et révèle à quel point le scénario de Tarantino est riche, parfaitement construit, mais aussi très drôle.
Hear your names. Mr. Brown, Mr. White, Mr. Blonde, Mr. Blue, Mr. Orange, Mr. Pink.
Why am I Mr. Pink?
Because you're a faggot, all right?
Why can't we pick our own colors?
No way, no way. Tried it once, it doesn't work. You get four guys all fighting over who's going to be Mr. Black. But they don't know each other, so nobody wants to back down. No way. I pick. You're Mr. Pink. Be thankful you're not Mr. Yellow.
Voilà, alors il y aurait plein de choses à dire, à vous faire écouter à propos de Reservoir Dogs, mais je préfère vous encourager à aller découvrir ou redécouvrir ce film inoubliable, qui reste à mon avis le meilleur film de Tarantino à ce jour.
K. Billy's Super Sounds of the 70s continues. You just heard The World is a Ghetto by War and Billy Don't Be a Hero by Bull Donaldson and the Haywoods. And if you're the 12th caller, you'll win two tickets to the Monster Truck Extravaganza being held tonight at the Carson Fairgrounds, featuring Big Daddy Don Bodine's truck, the Behemoth. The 12th caller wins on the station where the 70s survived. K-B-I-L-L-Y.
Voilà, donc
c'était pour amorcer ton sujet sur la drogue là. Ah ouais, il avait pris quelque chose ou il
ça
est,
commence
il
non mais fait. En fait le film est ponctué de ces petites annonces de radio parce qu'il y a cette antenne de radio qui passe de la musique des 70s, la K-Billy's Super Sound of the 70s, et donc ça ponctue le film. À noter que le premier film de Tarantino, My Best Friend's Birthday, donc qu'il a tourné de façon amateur, qu'il a pas terminé, gravitait autour d'un DJ de la radio K-Billy's Super Sound of the 70s. Et donc voilà, c'est toutes ces petites pubs, ces petites entractes, ces désannonces de musique radiophonique avaient été écrits avant Reservoir Dogs par Tarantino et Roger Avary, avec qui bossait sur le scénario de My Best Friend's Birthday. Voilà, donc Reservoir Dogs à voir.
En tout cas, représentation de la violence,
oui,
d'une certaine manière de la violence dans Reservoir Dogs, mais aussi une utilisation de la violence hors champ. Notamment avec l'oreille.
Oui, alors il y a cette scène mythique qui a imprimé irrémédiablement la rétine des spectateurs et qui fait de Michael Madsen un psychopathe en quelques images. Et voilà, on ne peut plus entendre la petite musique sur laquelle il danse sans penser à Michael Madsen en train de faire quelques pas devant ce flic. Donc moi, je vous le recommande chaudement. Ça passe au cinéma Nestor Burma mardi prochain. Alors à partir de 18h, il y a les deux films, le film de Monty Hellman suivi de Reservoir Dogs.
Alors Adrien, tiens, juste comme ça, puisque tu es encore là, pourquoi Reservoir Dogs ne serait pas dans l'absurde séance? Est-ce que c'est un film qui est finalement...
Ça pourrait tout à fait. Ça pourrait tout à fait.
Voilà, bon, c'était ça, je voulais avoir cette confirmation. Nous passons à Rabbit Hole. Alors si j'ai tenu à voir ce Rabbit Hole, trou noir au Québec et pas trou de lapin, ça n'est pas pour son casting, même si Nicole Kidman est une actrice que j'ai toujours plaisir à voir. L'Australienne a joué pour Kubrick, Lars von Trier ou Sidney Pollack. Alors ni pour son sujet, un couple aisé qui ne se remet pas de la perte de leur enfant de 4 ans. Non, si j'ai tenu à voir Rabbit Hole, c'est pour son réalisateur John Cameron Mitchell, un cinéaste dans la mouvance de la contre-culture américaine avec deux films, Hedwig and the Angry Inch en 2001, itinéraire d'une rockstar transsexuelle, et puis surtout Short Bus, une sorte de comédie autour du sexe à base d'autofellation, d'interrogation sur le plaisir et de partouze hippie. Alors dans la partouze hippie, il y a une fanfare, voilà, c'est ce que j'ai vu après ce film. Comment un réalisateur avec ce pédigré allait pouvoir traiter d'un sujet pareil, le deuil? Ça ne prête pas trop à rire, alors après Eros Thanatos, finalement ça semble presque logique. Mais en fait, dans Rabbit Hole, s'il est question du deuil, il est surtout question du couple Becca et Howie. Leur maison est encore imprégnée de la vie du petit garçon, alors qu'il est mort fauché par une voiture il y a déjà 8 mois. La chambre est intacte, il reste des vidéos, des dessins, le couple est quasi coupé du monde, peu de relations sociales, refusant les dîners avec enfants, allant voir la famille de temps à autre seulement, au risque et péril de l'ambiance. Le couple est perdu, pas forcément sur la même longueur d'onde, incapable de se parler, ça fait des journées mornes, des soirées solitaires. Rien de bien enthousiasmant, me dirige rendez-vous, sauf que dans ce scénario, qui aurait pu rester bloqué sur la description, intervient le jeune homme qui a renversé l'enfant. La mère le croise par hasard et c'est plus fort qu'elle. Elle tente une rencontre, un dialogue, jouant plusieurs rôles, celui de la mère, de l'ami, de la victime. Cette rencontre est son secret à elle, elle n'en dit mot à personne, tout comme de son côté son mari tente des expériences pour refaire surface. Alors ils poursuivent chacun leur route et le spectateur caresse l'espoir que ces chemins vont les unir, et pourquoi pas. Si les ingrédients du scénario ont tout d'un drame, il n'y a pas de pathos exagéré, quelques coups d'éclat ici et là, et puis quelques pointes d'humour et d'ironie, comme si on se trouvait en face d'une critique sociale, quand il s'agit de montrer les bondieuseries et les lieux communs qu'on retrouve dans cette pratique très américaine que constituent notamment les groupes de parole. La mise en scène est très discrète, on remarquera la présence de quelques mélodies à la guitare classique sur certaines scènes, mais sur les plus importantes, la musique laisse place au silence et à la puissance du dialogue. Alors notamment le dialogue qui se crée entre Kidman et le malheureux bourreau de son fils, ce dernier est touchant de spontanéité et à peu près l'antithèse de DiCaprio. Les acteurs incarnent parfaitement leur rôle et Kidman a là un rôle plutôt sur mesure, tout en gravité et légèreté à la fois, et clin d'œil assez amusant à la fin du film puisqu'on se retrouve on retrouve le même procédé qu'à la fin de Eyes Wide Shut, où les personnages imaginent ce qui peut se passer après, qu'est-ce qu'il reste à faire. Dans Eyes Wide Shut de Kubrick, Nicole Kidman dit « fuck ». Ici, une autre réponse est donnée. Voilà, donc je vous invite à aller voir Rabbit Hole, réalisé par John Cameron Mitchell avec Nicole Kidman et Aaron Eckhart. Et c'est projeté au Diagonal en version originale sous-titrée.
Vous êtes à l'écoute de Divergence FM, c'est Cinérama et tout va bien. Installez-vous confortablement sur votre terrasse dans une chaise longue au soleil et profitez de ce mercredi après-midi qui commence pour vous offrir une petite séance de glandouille et de détente. C'est ça, tranquille. Tendez la main pour attraper la boîte à bédo qui traîne sur la table basse à côté de votre cocktail des îles et roulez-vous un gros pétard de bon afghan noir. Parfait, vous êtes maintenant dans les conditions idéales pour écouter d'une oreille vaguement attentive mon compte-rendu de Mr. Nice, long-métrage biographique de Bernard Rose consacré à Howard Marks, l'un des plus gros dealers de cannabis des années 70 et 80. Nous sommes dans les années 60, un jeune Gallois débarque au Balliol College de l'université d'Oxford pour y suivre des études de sciences naturelles et de physique. Il rencontre rapidement d'autres étudiants qui lui font découvrir le cannabis. Une passion et une vocation est née. Howard Marks devient un irréductible adepte de la fumette et s'improvise dealer pour payer sa propre consommation. Quelques années plus tard, il contrôle 10% du trafic mondial de cannabis, jongle entre une quarantaine d'identités et entretient des relations avec les services secrets anglais, l'IRA et la mafia. À la fin des années 80, suite à une opération policière de grande ampleur, il est finalement arrêté et condamné à 25 ans de prison. Il en purgera 7 et sort en 1995, définitivement vacciné contre le trafic de drogue, mais toujours aussi porté sur l'âcre fumée du shit. Aujourd'hui, Howard Marks vit en Angleterre sous son vrai nom et milite pour la légalisation des drogues récréatives. Alors réussir un film biographique ou biopic, comme on dit en anglais, c'est jamais une chose facile. Dramatiser la réalité et la rendre passionnante tout en lui restant fidèle relève souvent du tour de force, même si bien sûr les gens dont on choisit de porter la vie sur grand écran ne sont pas des monsieur tout le monde. Milos Forman, le réalisateur de Man on the Moon, est passé maître dans cet exercice compliqué en traitant la biographie de Andy Kaufman avec une bonne dose de fantaisie et de distance. Plus récemment, Nicolas Winding Refn et Johan Sfar nous ont régalé avec respectivement Bronson, consacré au criminel anglais Michael Peterson, et Gainsbourg, Vie héroïque, sorti l'année dernière, donc deux films qui abordent le biopic de façon vraiment originale. Alors Mr. Nice de Bernard Rose prend des chemins un peu plus balisés, à l'exception d'un jeu formel sur la qualité des images et les formats de pellicule dans la première partie du film, la mise en scène est traitée de façon plutôt classique et la vie d'Howard Marks est racontée sans fioritures particulières. Donc, si le film s'ouvre et se conclut sur une scène de théâtre, ce n'est pas pour intégrer à la narration une dimension réflexive comme dans Bronson, mais simplement pour encadrer le récit et représenter un épisode de la reconversion du Mr. Nice après sa sortie de prison. Donc le film est réaliste et on regrette que certaines scènes ne soient pas un peu plus folles, alors qu'à l'écran, les personnages sont drogués jusqu'aux yeux. Donc malgré cette réserve sur les choix de mise en scène, le film de Bernard Rose se regarde sans déplaisir, même s'il aurait gagné à être un peu plus concis. Rhys Ifans, qui incarne à l'écran Howard Marks, se révèle une nouvelle fois drôle et attachant. Chloé Sevigny, dans le rôle de Judy, la seconde femme de Mr. Nice, est elle aussi touchante et juste. Mais le véritable rôle en or de ce film, c'est celui confié à David Thewlis, que les fans d'Harry Potter connaissent bien pour son rôle de Remus Lupin, le sorcier loup-garou. Ici, David Thewlis campe Jim McCann, un fou furieux, membre de l'armée républicaine irlandaise, qui s'investit dans le trafic de drogue aux côtés de Marx. Imprévisible mais efficace, Jim McCann devient le bras droit de Mr. Nice et gère l'arrivage de la drogue en Irlande. Hirsute, violent et vulgaire, McCann bouffe l'écran à chacune de ses apparitions, jusqu'à un final hilarant dont je vous laisse la surprise. Alors à la fin de la projection, la vie de Howard Marks n'a plus de secret pour nous, mais Bernard Rose n'évite pas quelques poncifs et autres effets dispensables qui ont tendance à ralentir le rythme du film. Le sujet délicat du trafic de drogue est traité sans manichéisme, et le film parvient sans trop de problèmes à faire passer le message du vrai Howard Marks. Si la question de la consommation de drogue douce n'est pas à blâmer et doit être laissée entre les mains responsables de préférence de chaque consommateur potentiel, le trafic de drogue, lui, c'est un miroir aux alouettes et un piège à éviter. La promesse de l'argent facile peut séduire, comme il a séduit Mr. Nice, mais en mettant un pied dans cet engrenage, c'est à une addiction d'un autre genre et à un cauchemar bien réel que l'on s'expose. Sur Divergence FM, c'était un extrait de la bande originale de Mr. Nice. Alors je n'ai pas mis d'extrait du score vraiment composé par Philip Glass, voilà, qui s'est chargé de la bande originale, mais parce que dans ce film, eh ben, Philip Glass recycle un peu ses vieilles recettes et du Philip Glass.
Oui, de toute façon, Philip Glass fait partie de ces compositeurs qu'on reconnaît souvent,
oui, en quelques
premières écoutes.
Ouais. Donc voilà, Mr. Nice, bon, voilà, pour les amateurs, c'est un film à voir, un peu long, ça manque un peu de folie à mon goût, mais voilà, si vous n'avez rien d'autre à faire, vous pouvez aller voir ce film. C'est l'heure de passer au blind test, donc spécial défonce, drogue et trafic en tout genre. J'espère que vous avez révisé et on va commencer par un facile.
Choisir la vie, choisir un boulot, choisir une carrière, choisir une famille, choisir une putain de télé à la con, choisir des machines à laver, des bagnoles, des platines laser, des ouvre-boîtes électroniques. Choisir la santé, un faible taux de cholestérol et une bonne mutuelle. Choisir les prêts à taux fixes. Choisir son petit pavillon. Choisir ses amis. Choisir son survêt et le sac qui va avec. Choisir son canapé avec les deux fauteuils, le tout à crédit avec un choix de tissu de merde. Choisir de bricoler le dimanche matin en s'interrogeant sur le sens de sa vie. Choisir de s'affaler sur ce putain de canapé et se lobotomiser au jeu télé en se bourrant de mal d'eau. Choisir de pourrir à l'hospice et de finir en se pissant dessus dans la misère en réalisant qu'on fait honte aux enfants niqués de la tête qu'on a pondus pour qu'ils prennent leur lait. Choisir son avenir. Choisir la vie. Pourquoi je ferais une chose pareille? J'ai choisi de pas choisir la vie. J'ai choisi autre chose. Les raisons? Y a pas de raison. On n'a pas besoin de raison quand on a l'héroïne.
Eh bien, c'est donc le film de Danny Boyle, Trainspotting.
Bien joué, Vincent. Voilà un long extrait, l'introduction du film, donc du deuxième film de Danny Boyle après Petit meurtre entre amis, un film qui nous montre la jeunesse écossaise confrontée à la drogue pour échapper au sort peu enviable de leurs parents qui végètent dans des petits pavillons de banlieue résidentielle. Alors à noter que Danny Boyle n'hésite pas à citer Orange Mécanique de Stanley Kubrick dans son film. Voilà, Orange Mécanique qui parlait aussi d'une jeunesse qui partait en vrille pour rester sobre. Et donc un super rôle pour Ewan McGregor, mais aussi pour Robert Carlyle, qui joue Begbie, un alcoolique violent qui lui ne supporte pas les drogués, même s'il en fréquente. Voilà, un film culte aujourd'hui, Trainspotting. On va passer à un autre extrait.
D'abord, ta tête va enfler comme une pastèque. Tu vas grossir de 50 kilos environ en 2 heures.
D'accord.
Il va te pousser des griffes, des pustules sanguinolentes.
Oui.
Et ensuite, tu vas remarquer que tu as 6 énormes seins poilus qui te poussent dans le dos.
Fantastique.
Tu vas perdre la vue. Ton corps va se transformer en cire. Il va falloir te mettre dans une couette. Et tu vas hurler à l'aide. Ton cri sera celui d'un raton laveur. Oh.
Voilà un vrai trip complètement déjanté. Bruno, notre génial technicien, a trouvé c'est Las Vegas Parano de Terry Gilliam, donc avec Johnny Depp, Benicio del Toro qu'on entendait dans cet extrait. Et voilà, donc une scène où Benicio del Toro présente les effets de la consommation d'une hypophyse humaine à Johnny Depp, lui-même en plein trip. Voilà, le film est adapté du roman éponyme de Hunter S. Thompson, drogué s'il en est, inventeur aussi du gonzo journalisme.
Je t'écoute, vas-y.
D'accord. J'ai ni la dope, ni le pognon.
Ah, pourquoi t'as pas la dope? Pourquoi t'as pas le pognon?
Bah parce que je me suis fait serrer par les flics, c'est tout.
Tu t'es fait choper, hein? Il s'est fait choper. Tu t'es fait pincer avec les 200 grammes. Tu t'es fait pincer, hein? Et ils t'ont pas gardé, Franck? Pas de mise en isolation, rien?
Non.
Non? Je trouve ça bizarre, hein? Franck, ton histoire est bizarre.
La dope est dans le lac.
Hein? Pas de plus en plus bizarre.
Je l'ai balancée dans l'eau.
Où ça?
Dans l'eau.
La dope est dans le lac?
Ouais, dans le lac.
Oh. T'as acheté 200 grammes de dope dans le lac, c'est pas qu'on remarque.
J'ai fait ce que je pouvais.
T'es mon meilleur ami à Copenhague, Francky. 200 grammes dans le lac. Vas-y, continue ton histoire.
Je t'ai tout dit.
Eh, vas-y, continue. Okay.
Mm-hmm. Plus difficile ça.
Ouais, oui, Copenhague et tout.
Voilà, donc ouais. Un film de drogués qui se passe au Danemark, à Copenhague précisément. Ah. Il s'agit du premier volet d'une trilogie.
De Pusher.
Tout à fait. Mmh. Il s'agissait de Pusher, donc un petit échange entre Frank, dealer à Copenhague, et Milo, fournisseur, donc, qui sera un personnage qui sera développé plus longuement dans le troisième volet du film. Mais là, le premier Pusher s'intéresse donc à Frank, petit dealer, loser également. C'est un super film, à mon avis, un peu coup de poing aussi dans le genre. Qui est passé plusieurs années après qu'il ait été, enfin qui est sorti en salle plusieurs
après
années après
la production. Ouais. Ouais. J'ai toujours pas vu moi la trilogie.
D'ailleurs. Bah, à voir. Voilà, voilà les trois Pusher de Nicolas Winding Refn.
J'ai l'impression qu'autour de moi tout est vivant. Mais oui, toutes les forces de la vie débordent et m'entraînent.
Tu entres dans la beauté, Paul. Laisse-toi porter. Ne résiste pas, surtout.
Oh, regarde! Oh. J'aimerais que tu le sentes.
Le poids?
Non, non. La vie.
Ah.
Elle coule. Elle coule en moi. Elle m'inonde de toutes ses forces. C'est chaud. Je la sens partout. Sur mes mains, je la sens. Elle coule le long de mon bras. Je n'ai jamais senti cette force avant. Je n'ai jamais senti cette force avant. Jamais.
Là, c'est un gros film des années 70, hippie.
Tout à fait. 67, bon, un classique.
Easy Riders, je sais pas. Ça...
Non, mais justement, non. Le piège était là. C'est un film qui date 2 ans avant Easy Rider. Mais c'est un film écrit par Jack Nicholson, avec Peter Fonda et Dennis Hopper dans un petit rôle. Il s'agit de The Trip de Roger Corman, voilà, le pape de la série B, The Trip qui raconte la première prise de LSD de Paul, interprété par Peter Fonda. Donc voilà, une sorte de
précurseur.
Voilà, de film précurseur à Easy Rider, moins bon puisque c'est Corman qui est aux commandes et que voilà, ça reste un maître de la série B bricolée et du cinéma d'exploitation, mais bon, qui est complètement symptomatique de son époque. On va passer à quelque chose d'un peu plus récent.
Prends-le. Mets-le dans ta bouche. Tu le laisses glisser. Jusqu'au fond. Après dans la gorge. Et tu avales. Entraîne-toi avec ces raisins. T'arrives à avaler ça? Il ne faut rien manger pendant 24 heures avant le voyage. Tu dois absolument avoir l'estomac complètement vide. Parfois, il ment sur la quantité que tu dois avaler.
Il faut en avaler combien?
Pour ta taille, environ 60 ou 70 capsules.
Non, sérieux?
T'as de la chance de pas être bien grande, parce que les mecs costauds doivent en avaler une centaine. Vérifie qu'elles sont bien emballées, parce que si une seule s'ouvre dans ton estomac, tu es morte. Fais-toi jolie, mais pas de fringues trop voyantes, tu dois pas avoir l'air d'une plouque qui veut jouer les stars.
Et toi, t'as fait combien de voyages?
2.
Et ça s'est bien passé?
Je suis là.
Plus difficile, donc il s'agit d'un film colombien, un petit échange entre deux mules chargées de transporter de la drogue de Colombie aux États-Unis en avalant des capsules de cocaïne ou d'héroïne et en les faisant passer dans leur estomac à la douane. L'affiche du film, si vous vous rappelez, c'était une sorte de parodie, c'est pas tout à fait ça, mais une sorte d'icône religieuse où l'hostie est remplacée par une de ces capsules blanches là, que les jeunes femmes doivent avaler. Il s'agit de Maria pleine de grâce de Joshua Marston, film de 2004 que vous avez peut-être vu dans les salles Art et Essai. Voilà un film que je vous recommande avec la très belle Catalina Sandino Moreno dans le rôle de Maria. On va passer à quelque chose de plus connu et que vous devriez trouver assez facilement.
Ah. Oui, bah là, c'est vite trouvé, Requiem for a Dream. Justement.
Ça, c'était un incontournable. Je ne pouvais pas faire un blind test spécial drogue.
J'y avais pensé.
Sans ce film.
D'autant que là, au niveau sonore, autant à l'image, effectivement, le film d'Aronofsky est plutôt brillant et a des petits coups comme ça, de plans successifs nerveux. Et puis, au niveau sonore, ça fait la différence aussi.
Voilà, ce petit son, c'est les séquences dont tu parles, surdécoupées, où les personnages prennent de la drogue ou s'abandonnent à leur addiction, quelle qu'elle soit, que ce soit la télé, le chocolat, l'héroïne, bien sûr. Donc voilà, adaptation de Hubert Selby Jr., Requiem for a Dream, film de 2000, film qui a traumatisé toute une génération de spectateurs par la noirceur de son histoire. Alors à noter que la BO est signée Clint Mansell, une des plus belles BO que je vous recommande d'écouter.
Interprétée par le Kronos Quartet aussi.
Voilà. Donc,
et puis la fin de ce film est absolument magistrale.
Un chef-d'œuvre sur le sujet, bien déprimant. Plus déprimant en tout cas que le prochain extrait.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
C'est Gloria ?
Oui, je sais que c'est Gloria, mais ça, c'est quoi ?
C'est l'engrais ?
Cela va faire 6 heures que tu es parti pour acheter un trieur de billets et tu reviens avec une Gloria dans les vapes et un sac d'engrais. J'entends comme un signal d'alarme, Willy.
On a besoin d'engrais, Winston.
Et on a besoin d'un trieur de billets. Le fric doit être parti avant jeudi et je ne vais pas me casser le cul à le compter. La prochaine fois que tu achètes ta saloperie d'engrais, tâche d'y mettre un peu de discrétion.
Qu'est-ce que tu veux dire ?
Ici, on fait pousser en abondance la marijuana, d'accord ? Et tu trimbales un sac d'engrais et une gamine en pleine défense. Je dois te dire que tu n'as pas vraiment la gueule du paysan horticulteur. Voilà ce que je veux te dire, Willy.
Voilà, donc le film a été trouvé à nouveau par Bruno, grand spécialiste, toujours le pétard au coin du bec quand il assure la technique des émissions de Divergence. Il s'agissait d'Arnaque, Crime et Botanique de Guy Ritchie, un autre film qui date de 2000, premier long métrage de Guy Ritchie, qui d'ailleurs reprend le principe de l'intro de Trainspotting de Danny Boyle, avec des personnages comme ça qui fuient des policiers et qui sont présentés un par un avec leur nom écrit à l'écran. Donc une citation...
avec arrêt sur image.
Voilà, ouvertement, une référence ouverte à Danny Boyle. On en finit avec ce blind test spécial drogue pour se reposer les neurones juste après avec Daniel Auteuil. Et voilà, je vous propose d'écouter un dernier extrait.
Encore une fois. Pourquoi faire ? Son âme est toujours en train de danser.
Et c'est Bad Lieutenant, effectivement, avec une scène très très caractéristique. À noter que c'est un remake aussi. Là, c'est la version de
Werner Herzog.
De Werner Herzog, et il y a eu la version d'Abel Ferrara.
Tout à fait, où pour le coup, c'était Harvey Keitel qui jouait,
qui jouait une descente aux enfers.
Ouais, le rôle de ce flic complètement drogué, accro au crack et à l'héroïne. Donc Bad Lieutenant, Escale à la Nouvelle-Orléans de Werner Herzog, qui était sorti en 2009. Donc cette histoire de flic qui se fait mal au dos et qui petit à petit, en commençant par les analgésiques, finit par être drogué complètement au crack. Donc un des meilleurs rôles de Nicolas Cage de ces dernières années à mon avis, parce que quand il fait pas Ghost Rider et je sais plus quelle daube américaine de super-héros. voilà, des fois, Nicolas Cage se réveille et va tourner avec Werner Herzog. Donc un film que je vous recommande, moi, à voir. Donc voilà, pour en terminer avec ce sujet, je vous rappelle que si le cannabis n'entraîne a priori pas de dépendance physique ni psychique, il reste un psychotrope puissant à ne pas conseiller aux personnes à la psychologie fragile et à ne pas consommer à la légère. Quant aux drogues dures type héroïne, cocaïne, crack ou opium, vous savez ce qu'il en est. Et plutôt que de vous faire la morale, je préfère laisser la parole à un spécialiste de la question.
Ils ont subi un châtiment bien trop grave pour leur faute. Je les aimais tous. En voici une liste. Je leur dédie mon affection. À Galen, décédé. À Ray, décédé. À Frenzy, psychose incurable. À Cathy, lésion cérébrale incurable. À Jim, décédé. À Val, grave lésion cérébrale incurable. À Nancy, psychose incurable. À Joanne, lésion cérébrale incurable. À Maren, décédé. À Nick, décédé. À Terry, décédé. À Denis, décédé. À Phil, lésion pancréatique incurable. À Sue, maladie vasculaire incurable. À Jerry, psychose et maladie vasculaire incurable. In memoriam, ils étaient mes camarades, les meilleurs du monde. Ils restent en moi. L'ennemi ne sera jamais pardonné. L'ennemi fut l'erreur qu'ils firent en jouant. Puissent-ils jouer encore, autrement, et être heureux. Philippe K. Dick.
Et donc c'est la fin de Scanner Darkly dont tu as parlé.
Voilà, à l'occasion de mon dossier sur K. Dick, justement. Ouais. Un film de 2006. Alors en fait, le générique de fin, ce défilé de noms reprend la fin du livre où K. Dick faisait un petit mot, une petite note de l'auteur où il énumérait exactement ces noms-là. À noter qu'il a glissé au milieu à Phil, lésion pancréatique irréversible. Il s'agit bien sûr de lui-même, Philippe K. Dick.
Bien, merci beaucoup Martin pour ce nouveau blind test. J'espère que tu en trouveras un la semaine prochaine.
Oui, je pensais que blind test spécial drogue, ce serait très rigolo, mais voilà, j'avais oublié que c'est pas si rigolo que ça et qu'il y a beaucoup de films plutôt déprimants sur ce sujet. Mr. Nice, c'est un peu une exception. Voilà, on montre le côté un peu marrant, un peu fun de ça, même s'il finit par passer 7 ans en prison. Donc voilà.
Mais après, il y avait, Blow, il y avait American Gangster, il y avait Midnight Express. Enfin voilà, qui ne sont pas des films forcément très très réjouissants, sauf peut-être Blow qui est assez heureux. Enfin,
mais à côté de ça, il y a aussi quelques comédies, Les Frères Pétard, pour ne citer que celui-là, ou La Beuse, dans un registre beaucoup moins intéressant. C'est vrai qu'il y avait du choix. Mm. Donc j'ai choisi quelques films un peu emblématiques.
Eh bien, on va changer d'ambiance.
Alors, cette femme... Tu veux te la marier ?
Oh oui, ça je voudrais bien, mais elle ne voudra pas.
Et pourquoi ?
Parce qu'elle est belle et que moi je suis vilain.
Et ça recommence donc ce qui a été fait en 1986 par Claude Berry avec Daniel Auteuil, Emmanuel Béart et Yves Montand. Et d'actualité aujourd'hui, voici avec La fille du Puisatier, un nouveau remake d'un film de Pagnol. Accent provençal indispensable, homme bourru et dur à la tâche, riche, pauvre, cigale, tout repart comme en 40 et on peut utiliser l'expression à dessein car le film a été effectivement tourné en 1940 dans sa première version. Alors qu'est-ce qui a été changé en 70 ans ? Eh bien, si le décor est le même aux abords de Salon de Provence, la nouvelle version a été tournée en couleur. Ça, je ne l'apprends à personne. Et puis, bien sûr, réalisateurs et acteurs ont changé. Alors, à la place de Pagnol, on trouve Daniel Auteuil qui réalise là son premier film. Autant dire qu'il n'a pas pris grand risque puisqu'il avait déjà un solide canevas. À la place des acteurs, eh bien, qu'est-ce qu'on a ? On a Rému le Puisatier dans la version originale qui est remplacé par Daniel Auteuil. Felipe, interprété par Fernandel en 40, est remplacé par Cadmerade. Josette Day, la fameuse fille du rôle-titre par une inconnue qui a surtout fait du théâtre, Astrid Berger-Frisbet. Et puis viennent Sabine Azéma en bourgeoise indignée et son mari tout aussi bourgeois, interprété par Jean-Pierre Daroussin. Il nous manque le tombeur en la personne de Nicolas Duvauchel. Alors l'intérêt de cette nouvelle version pour Daniel Auteuil était de rendre hommage au texte de Pagnol, à ses histoires simples, pleines de non-dits, dans une Provence rurale. Ici, une fille, celle du Puisatier, alors souvent les histoires, il y a souvent des histoires d'eau chez Pagnol, hein, qui rencontre donc un fils de bonne famille qui tombe enceinte alors que celui-ci part à la guerre et est porté disparu. Pas de chance parce que le Puisatier, il a beau aimer ses filles, il en a quatre, il n'est pas prêt à accepter un petit-fils sans mari. Et c'est pire du côté du géniteur. Oui, voilà, puisque les parents des commerçants, leur fils disparu, eh bien impossible de considérer cette fille comme leur belle-fille.
Moi, j'ai une fille qui est une princesse et vous avez un fils. Et, d'après ce qu'on m'a dit, c'est un prince. Il est au front en ce moment.
Ce que peut faire mon fils ne vous regarde pas.
Ce qu'il fait ne me regarde pas. Mais ce qu'il a fait à ma fille me regarde.
Ah, nous y voilà. Écoutez, monsieur, s'il me fallait recevoir ici toutes les filles qui ont eu des bontés pour mon fils, ma maison ne serait pas assez grande. Donc n'en parlons plus.
Oui, Pascal, cette conversation est un peu ridicule. Aussi, ce que tu as de mieux à faire, c'est de t'en aller avec tes filles et de les surveiller d'un peu plus près si tu ne veux pas qu'elles se laissent compter fleurettes.
Bien, père, allons-nous-en.
Attends, petite, ils n'ont pas bien compris. Monsieur Mazel, Fleurette, c'est au printemps, c'est joli, ça n'a pas d'importance. Après vient l'été, puis l'automne. Et sous les feuilles, y poussent les fruits. Vous me comprenez ?
Voilà le chantage ! André, fais sortir ces gens-là immédiatement, sinon j'appelle les gendarmes !
Les gendarmes ? Parce que votre fils a donné un enfant à ma fille, vous voulez appeler les gendarmes ? Et qu'est-ce qu'ils vont y faire, les gendarmes ? Vous croyez qu'ils vont l'accoucher tout de suite ?
Quand un garçon est beau et qu'il a de l'argent, il faudrait qu'il baisse les yeux s'il rencontre une fille pauvre. Eh ben non ! Mon fils ne paiera pas pour les autres ! Non, non, non et non !
Les femmes parlent beaucoup, elles réfléchissent qu'après. Vous, l'homme, vous allez dire quoi ?
Je dis, Pascal, que tu connais bien mieux les pioches que les filles. Les filles, Pascal, les hommes et surtout leurs pères n'y comprennent jamais rien.
Que va devenir la fille, l'enfant ? Est-ce que le père est si proche de sa fille chérie ? Tout ce beau monde ne va-t-il pas finir par se réunir ? Chez Pagnol, la fable est quand même jolie. Alors c'est une belle historiette qui nous est contée, un petit drame au pays des accents chantants, ou des accents tout court, puisque c'est le mien qui est pointu. L'intérêt pour le spectateur est peut-être de redécouvrir la qualité du verbe chez Pagnol, de ces dialogues bien ciselés qui décortiquent les relations sociales à la campagne en 1940, car autre temps et autre mœurs, le conservatisme de 1940 n'est plus vraiment de rigueur. Même à la campagne, de nos jours, il y a des mariages mixtes, des couples homosexuels, des paysans qui, faute de mieux, font venir des filles de l'Est. La campagne a bien changé, la Provence aussi. Suffit de regarder les élections pour s'apercevoir que la bonhomie cache de nets penchants électoralistes en direction de l'extrême droite. De tout cela, il ne sera pas question dans La fille du Puisatier. C'est un film du passé, qui est plus un hommage qu'une œuvre à part entière, tant la mise en scène est classique, pas vraiment de coup d'éclat. Alors il reste les acteurs, avec un Cadmérade dont on a l'impression que derrière son personnage poli et gentil, il se retient d'exploser pour raconter une blague. Nicolas Duvauchel est agaçant, à croire qu'on ne lui demande que d'interpréter des personnages de tête à claque, bourreau des cœurs. Auteuil est celui qui s'en tire le mieux. Mais il avait pu s'entraîner en figurant au casting de Manon Dessources et de Jean de Florette. Alors en résumé, ceux qui ont apprécié les remakes de Berry dans les années 80 pourront se plonger dans La fille du Puisatier. Les autres peuvent regarder ailleurs pour avoir de belles historiettes. Et c'est projeté un peu partout. Et surtout au Gaumont et CGR. On passe aux événements, puisque c'est la fin de Cinérama. Alors, ce sera demain 21 à Frontignan. Le cinéma Cinémistral propose à 14h30 un ciné-été autour de la projection du film Jimmy Rivière de Teddy Lucie Modeste. On en a déjà parlé dans le cadre de l'absurde séance, c'est le film Seul contre tous avec l'acteur Philippe Naon à l'Utopia à 20h demain jeudi. Le cinéma Diagonal propose demain jeudi aussi à 19h50 la projection du film de Fred K. Nicolas, Rouge Bandit. C'est en suivi de débats avec Charlie Bauer. Le 22, dans le cadre de la Journée de la Terre, le cinéma Nestor Burma propose à 20h30 la projection débat autour du film de Joss Fox, Gazland, qui passe aussi à l'Utopia. Et puis, à Montpellier, le 23, le cinéma Nestor Burma propose à 14h un ciné-été autour de la projection du film de Philippe Claudel, Tous les soleils. Le 26, le cinéma Nestor Burma, mais on a déjà parlé, propose à partir de 13h45 une journée d'études du réalisateur américain. Non, c'était la semaine dernière.
C'était la semaine dernière. Non, ce mardi, là, oui. C'est simplement le double projection de Road to Nowhere et Reservoir Dogs.
My apologize. Donc, pour les festivals, si vous allez du côté de Perpignan, il y a le festival Confrontation avec le thème Cinéma des Indes. Et puis le festival de cinéma latino-américain qui a commencé le 18 avril et qui s'achève le 2 mai. Et vous pouvez avoir toutes les infos collectif albamontpellier.blogspot.com. Et puis on en termine avec tous les films qui passent à l'Utopia, All That I Love, Arietti, Avant l'aube, Black Swan, Gazland, Le discours d'un roi, Les femmes du sixième étage, Ma part du gâteau, Nous, princesse de Clèves, Si tu meurs, je te tue, True Grit et We Want Sex Equality.
À noter, juste après Cinérama, vous retrouvez votre émission consacrée à la musique de film, 24 notes secondes. Cette semaine, c'est consacré à Robert Redford.
Et puis, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine, forcément, pour un nouveau Cinérama. J'espère qu'on aura encore un blind test.
On est vernis,
ça fait 3 semaines déjà qu'on en a.
Je vais voir. Alors, qu'est-ce que tu nous as mis au générique de fin, Vincent ?
Eh bien, figure-toi que j'ai choisi Pagnol. D'accord. Quand même, Pagnol, mais cette fois-ci, c'est Pagnol. C'est pas Auteuil qui fait du Pagnol. Donc, c'est un extrait du Spoons avec Fernandel. Excellent acteur dans ce film, en tout cas.
Eh bien, la semaine prochaine.
Et merci à Bruno. Thank you.
cinéma, monsieur, mais c'est ma passion, c'est ma folie. Pour jouer même un petit rôle, je ferais n'importe quoi, je le jouerais même gratuitement. Le premier, bien entendu. Mes enfants, j'ai une idée. Et je m'étonne qu'aucun de vous ne l'ait eue avant moi.
Quelle idée?
Mais le Spoonz. Le Spoonz. C'est lui?
Bien sûr!
Mais qu'est-ce que c'est que le Spoonz?
Oh.
Le Spoonz, monsieur. Le Spoonz, c'est un rôle extraordinaire dans un film extraordinaire. Depuis 5 ans, on n'a trouvé aucun artiste pouvant l'incarner.
Aucun.
Ah, aucun. On a essayé toutes les plus grandes vedettes.
Toutes.
Tous les plus grands noms de l'écran, aucun n'a pu l'incarner. C'est Greta Garbo en homme. Vous vous rendez compte?
Monsieur, vous m'effrayez un peu.
Oui, il ne faut pas s'emballer. Moi, il me semble que dans la vie, monsieur est un Spoonz, mais à l'écran...
Il serait encore beaucoup plus Spoonz.
Oh, ça, c'est à voir.
Oh non, ça, mes enfants, moi, je donne mon avis, n'est-ce pas? Ça, il est bien évident que ce serait subordonné à des essais.
Ben, on peut se tromper, moi.
Ah oui, mais alors, ces essais qui sont la base de tout, quand les fait-on?
Cinérama.
Ah, moi, je peux tout de suite faire un essai de son, si vous voulez.
Sur Divergence FM.
Excusez-moi encore de vous avoir dérangé. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous téléphoner. Vous faites le 17, c'est facile.
Ah non, c'est le 14.
Non, le 14, c'est les télégrammes.
Mais les pompiers,
c'est le 18. D'ailleurs, si vous voulez vous renseigner, faites le 12. Sans rancune.